Eh bien, bonjour et bienvenue ici à l'ancienne gare de Fribourg pour un café pédagogue numérique animé par ma collègue Anya Tadi-Brami et je suis madame Mathieu Pain. On se retrouve en ce mercredi après-midi pour traiter de certains aspects de l'école, de l'enseignement, de l'apprentissage et échanger sur ces aspects autour de la technique, du numérique, en s'approchant des expériences des parents, des élèves, des enseignants, enseignantes, voir comment ça se passe vraiment en pratique et mettre en lien avec nos terrains de recherche autour de des enjeux de genre et de durabilité, puisque ce sont nos travaux de recherche d'Anya et moi.
Voilà. Alors, je vais commencer par te poser une première question, Mathieu, pour ce café pédago numérique. Eh bien, ma première question, c'est comment faire tenir ensemble l'ambition d'éduquer au développement durable et les choix politiques d'équipement massif des établissements en technologie numérique ?
Alors, comment mettre en rapport le développement durable et un équipement massif dans les écoles, c'est à la fois impossible et possible. Je m'explique. Le développement durable, c'est répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Et si on met en rapport les besoins du présent avec la capacité future, ben, on a plus d'infos sur les besoins futurs que les besoins du présent. Je m'explique là-dedans, c'est que l'écologie et les sciences de la Terre nous montrent qu'il y a des limites physiques, matérielles à cette planète. Les recherches montrent que le numérique a un fort impact physique, notamment en termes d'énergie, chaque appareil a besoin d'énergie pour fonctionner, mais surtout en termes de matériel. Un smartphone a environ 40 éléments du tableau de Mendeleïev compris dans ses composants. Pour extraire ce matériel, on a besoin d'énormément d'énergie, c'est très polluant. Et ça, c'est l'impact du numérique sur ces limites planétaires qui, on le sait, ne sont pas en bonne forme. Quant aux besoins du présent, dans cette politique d'équipement des écoliers et écolières fribourgeois, eh bien, ces besoins ne sont pas très bien déterminés, voire même incertains. Ils sont issus de projections. On fait un pari sur l'avenir. Ils sont chargés d'affect, d'expérience personnelle, d'intérêt. Alors, là-dessus, la première réponse, c'est que les autorités politiques, les personnes décisionnaires forment un contre-modèle mortifère à une éducation au développement durable à travers cette politique-là. Mais on peut y mettre un oui, parce qu'on peut rappeler cette réalité physique autour des limites planétaires. Lorsque le matériel est fourni aux élèves, lorsque ce matériel est utilisé, et rappeler que la valeur de ces deux discours s'équivaut, en tout cas on ne peut pas dire que l'un discours est plus important que l'autre, de dire les élèves fribourgeois doivent savoir utiliser des ordinateurs pour faire de la bureaucratie, des exercices, des tâches bureaucratiques et être employable dans le futur, ça a autant de valeur de dire que en donnant cet ordinateur à un élève, ça sera le dernier appareil numérique neuf que tu vas posséder d'ici les 30 prochaines années, parce qu'ensuite on a un effondrement civilisationnel et une chaîne de la production détruite qui rendra impossible la production de ces bijoux technologiques, ces deux discours qui se valent. Et dans l'éducation au développement durable, il s'agit de prendre des décisions sur quel discours on réalise ou pas. Donc oui et non, c'est mal parti, mais c'est possible d'amener une éducation autour de ces outils qui sont distribués auprès des élèves. C'est une grosse question avec une réponse assez large. J'espère avoir donné quand même quelques éléments, Anya.
Donc, merci pour cette question. Tout l'enjeu d'identifier des valeurs communes sans hiérarchiser des choix par rapport à d'autres, mais voilà, des valeurs communes. Dans une conversation qu'on avait eue, tu avais évoqué le concept de convivialité et j'aurais aimé savoir comment la reconstruction conviviale d'Ivan Illich peut-elle nous aider à mieux saisir ces enjeux et peut-être à trouver quelques solutions. Donc déjà, quelle est-elle, cette reconstruction conviviale et comment peut-elle nous servir de cadre analytique pour penser ensemble éducation au développement durable et éducation au numérique.
Donc Ivan Illich, avec ce concept de convivialité, décrit notamment dans son livre des outils pour la convivialité, le définit ainsi, définit une société conviviale telle que l'outil dans cette société est au service de la personne intégrée à la collectivité et l'outil n'est pas au service d'un corps de spécialistes. Et c'est un projet intéressant qui me rappelle un texte de loi, celui sur l'école obligatoire à Fribourg. Parce que là, lorsqu'on parle d'une personne intégrée à la collectivité, ça colle à la mission de l'école. L'école forme des futurs citoyens, c'est-à-dire qui ont une responsabilité vis-à-vis d'eux-mêmes et des gens et des choses qui les entourent, la société. Donc il y a une idée de contrôle de l'outil par son usager, son usagère. Puis avec le numérique, c'est d'autant plus intéressant parce que le numérique, défini lors de sa naissance sous le terme de cybernétique, c'est l'idée de contrôle, justement. Le numérique permet un contrôle sur les choses, permet de contrôler, de diriger, d'automatiser également. Alors la convivialité, un esprit, un outil convivial, ça voudrait dire, ici avec le numérique, que l'humain, l'élève, contrôle l'outil qui contrôle. C'est un contrôle dans le contrôle. Parce que jusqu'à présent, les outils numériques, les interfaces, les applications, les téléphones, servent peut-être les utilisateuristes, mais servent surtout d'autres intérêts, à travers notamment la collection de données. Donc le téléphone que tient l'individu il n'est pas contrôlé par l'individu, mais est contrôlé par son éditeur. Et c'est l'outil de l'éditeur pour récolter des données et servir un enjeu mercantile d'intérêt. Et de passer à un outil convivial, ça voudrait dire casser cette logique-là pour qu'il y ait un rapport pur d'usage de la personne avec son téléphone ou son ordinateur sans qu'il y ait une entité tierce plus ou moins cachée qui, elle, contrôle finalement l'usage et les comportements d'usage de l'utilisateuriste. Et là-dedans, aussi un terme intéressant de convivialité, mais aussi d'austérité, Illich, dans son livre, écrit que l'humain qui trouve sa joie et son équilibre dans l'emploi de l'outil convivial, c'est un humain austère. Il y a une austérité dans cet usage pas limité de l'outil, mais un usage complet de l'outil et un contrôle complet de cet outil. Voilà un peu, c'est un concept qui peut nous intéresser autour du numérique à l'école. On reçoit volontiers des questions à la suite des personnes présentes, mais avant cela, j'aimerais en poser encore, j'aimerais poser deux questions à Anya, cette fois-ci concernant les enjeux de genre, si tu veux bien. Donc le numérique, c'est une invention, ça fait partie des innovations les plus fortes de l'humanité. Et une invention, ça permet de mieux aller, c'est censé être à l'origine d'un progrès social indéniable. Mais c'est pas vraiment le cas. En tout cas, c'est quelque chose qui est ressorti, pourquoi pas.
Merci Mathieu pour cette première question. Donc, de mon point de vue, ce qui est essentiel à identifier dans ta question, je dirais que c'est des formulations que tu as employées. Donc, si je reprends la question, c'était « innovations les plus fortes de l'humanité et progrès social indéniable ». Eh bien, je dirais que ces formulations, elles s'inscrivent dans une perspective que l'on pourrait qualifier de technocentrée, puisque justement, on met la technologie finalement au-dessus de l'individu qui va occuper une place résiduelle par rapport à celle-ci. Et donc, sur le plan scolaire, ces discours technocentrés, comme l'ont montré plusieurs auteurs, ils provoquent une pression institutionnelle ou sociale sur les écoles pour une intégration forte et massive des technologies, justement. Donc, c'est l'objet de ma thèse, mais la notion de citoyenneté numérique, justement, qui est définie comme finalité scolaire à l'heure actuelle dans de nombreux référentiels en éducation numérique, eh bien, elle va incarner un petit peu ces logiques instrumentales, technocentrées, et on va aboutir, et cette perspective va se traduire par des objectifs scolaires peu ambitieux, voire peu vertueux sur le plan moral. Et là, ça reprend un petit peu ce que tu as abordé tout à l'heure. Donc, à titre d'exemple, justement, l'éducation à la citoyenneté numérique comme finalité scolaire, eh bien, dans la littérature, elle s'est d'abord développée par rapport aux capacités à accéder aux technologies, et c'est ce qui était visé auprès des élèves. Donc, ce qui a entraîné un équipement des établissements en occultant, en fait, d'autres compétences plus critiques. Et donc voilà, maintenant on se pose la question, cette finalité elle figure au centre du récent curricula scolaire éducation numérique aux côtés de la culture numérique, et comment celle-ci va être finalement opérationnalisée dans les classes, si on est beaucoup dans cette logique. Donc dans le cadre de cet échange, j'avais envie de mobiliser une chercheuse qui s'appelle Akugo Emejulu, elle est sociologue politique en Angleterre. Et justement, elle interroge cette perspective technocentrée et elle conclut qu'une telle conception, eh bien, elle risque de nous éloigner d'une réflexion critique par rapport aux implications politiques justement des technologies. Et cet auteur développe justement l'idée de citoyenneté numérique radicale, dans laquelle en fait elle va interroger les relations sociales avec les technologies, les rapports de pouvoir, et dans laquelle aussi des pratiques émancipatrices sont visées en fait. Cette auteure est selon moi très intéressante puisqu'elle a mené plusieurs réflexions sur la place des minorités dans la société en lien justement avec les espaces numériques, et elle conclut sa réflexion en disant que sans une réflexion approfondie sur la place des technologies dans la société, eh bien on risque d'aboutir à l'école à une conception apolitique de ce que signifie être une citoyenne ou un citoyen du numérique. Elle parle de performance d'un soi numérique plutôt qu'une entreprise sociale. Et donc je voudrais conclure cette première question par ces deux éléments.
Ok, hyper intéressant, merci. Peut-être que ça donne des éléments de réponse pour ma deuxième question, parce que donc, tu es active dans tu t'aides des études sur le genre, qui traite du genre, de la sexualité comme facteur d'inégalité, notamment d'accès aux soins et à la formation. Mais qu'en est-il des autres facteurs d'inégalité, tels que les catégories socio-professionnelles, la race, l'âge, l'handicap, etc.
Alors, merci pour cette seconde question, où tu rappelles justement la tension qui existe entre les approches intersectionnelles et les études genre. Et il est en effet nécessaire de voir comment la première approche, donc les approches intersectionnelles, peuvent nourrir les études genre. Et ces dernières années, effectivement, les sociologues du genre se sont particulièrement intéressés à la place des femmes, notamment dans la sphère numérique. Et il y a eu donc un regain d'intérêt pour ces questions de gouvernance numérique chez les sociologues en études genre. Parallèlement, il y a aussi eu plusieurs chercheurs qui se sont intéressés à la place des minorités dans la sphère numérique pour pallier peut-être à certaines lacunes épistémologiques dans ce domaine. Les approches intersectionnelles, j'avais juste envie de rappeler ce que c'était. Finalement, ça croise différentes caractéristiques sociales de l'individu, telles que genre, handicap, handicap, milieu social, par exemple, milieu social, genre, et les différentes caractéristiques, différentes logiques, notamment de discrimination, peuvent être croisées ensemble pour finalement étudier plus finement le vécu, l'expérience de l'individu. De cette façon, en fait, les approches intersectionnelles permettent de mettre en évidence des enjeux de territoire, de race, socio-économique, qui traversent notamment la production des technologies. J'avais envie de donner un exemple concret de l'application de telles approches en classe. Deux chercheurs, je reprends Emedjoulou qui est très active dans ce domaine, et McGregor, proposent une approche pédagogique qui s'intéresse au conflit entre le Nord et le Sud. Et ces auteurs explorent au travers de ce conflit finalement les luttes matérielles qui interviennent dans la production des technologies numériques. Et de cette façon, elles mettent en évidence les enjeux socio-économiques de race, de territoire, qui traversent justement la production des technologies. Et nous pouvons assurément ici faire un lien avec ce que tu as évoqué tout à l'heure des enjeux de développement durable. Donc ces approches, finalement, elles essaient de considérer les technologies et leur production comme finalement des opportunités de dialogue critique en classe, de discussion et de pratique critique, justement. Ça vous intéresse, et je pourrais mettre cela sous le podcast, il existe différents blogs qui présentent des activités pédagogiques basées justement sur ces enjeux d'implication, finalement d'identification des implications politiques internes aux technologies.
Oui, très volontiers. Là, c'est une réponse qui ouvre sur plein d'autres choses et d'activités et qu'il faudra approfondir, notamment avec des références que tu pourras nous donner avec le contenu du podcast. Ça, c'est quelques questions qu'on s'est posées entre nous pour chauffer un petit peu les neurones des participants et participantes. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des interrogations, des réclamations par rapport à l'échange qui a été initié?
Je peux?
Oui.
D'ores et déjà, merci beaucoup. Et parce que cet échange montre que, en tout cas, c'est mes perceptions, hein, que dans le champ d'éducation, je ne sais pas si on a fait fausse route, mais en tout cas on a fait un bout de route que partielle dans ces études très orientées dans les années 2000-2010, les effets des iPads, les effets des tablettes sur la motivation, sur les apprentissages. On a ainsi gardé dans le champ scientifique une approche finalement très technocentrée en fait, sans jamais prendre le pas du recul critique. Et là où ça rejoint peut-être le discours d'Ania sur une école qui se veut aujourd'hui peu ambitieuse à ce niveau-là, c'est que les plans d'études semblent avoir émergé à la suite de ça. Et j'aurais envie de dire, on aurait dû attendre encore 5-10 ans avant de faire les plans d'études, peut-être qu'ils auraient été différents. Maintenant, les plans d'études sont ce qu'ils sont, et ça va être évidemment compliqué de les changer. Mais ils ont émergé dans des cerveaux qui étaient biberonnés, nourris à... on a mis des iPads dans les mains des élèves, on a regardé 2 semaines après, ils étaient tous plus motivés, il faut mettre des iPads. Et donc, les plans d'études sont sortis là-dedans. Donc, j'essaie de juste réinscrire le discours que je trouve très porteur, très, très enrichissant, dans un contexte, pour essayer de comprendre pourquoi le contexte de l'institution scolaire n'ose pas plus. Mais après, je pense qu'il y a d'autres raisons encore. Il y a plein d'autres raisons. Mais j'aimerais revenir sur ton discours, Mathieu, autour de la convivialité. Et puis sur l'idée d'une négociation du contrôle dans la technique entre moi, utilisateur, utilisatrice, et puis cet éditeur dont tu parlais. Il y a quelque chose de l'ordre d'un espace de contrôle qu'on me laisse quand même, mais pas complètement. Et donc dans cette négociation du contrôle, est-ce que pour avoir en tant que singularité individu du poids dans cette négociation, est-ce que j'ai pas besoin de compétences hyper développées?
C'est l'idée du power user.
Ouais, qui peut se permettre tout d'un coup de faire des choix déjà éclairés, mais ensuite des choix qui rendent la vie pas forcément facile, mais qui redonnent du contrôle de manière ou d'une autre.
Je pense que sous-tend là derrière la perception que l'individu a énormément de responsabilités, de liberté. C'est bien le cas, mais l'individu aussi se situe dans une société, une collectivité, avec des institutions. Et là, c'est aussi le travail des institutions de prendre des décisions parfois difficiles. Et que ce n'est pas à l'individu de tout porter sur ses épaules.
Oui, tout à fait.
Du coup, ces décisions, là, c'est l'institution, c'est un État, c'est un établissement scolaire. Et je relie cette problématique de la convivialité, donc un usager, un outil, à un ensemble d'usagers et d'outils, donc une nation, un peuple, et un ensemble d'outils pour gérer cette nation. Et là, cette thématique se transforme en celle de la souveraineté numérique ou la souveraineté à l'ère du numérique. Et c'est une problématique qui est criante en Suisse maintenant et qui fait écho à celle de la convivialité dans un usage d'une personne avec un outil. Tu vois le lien entre les deux?
Ouais, alors complètement. Hein. J'essaie toujours, par contre, dans mes réflexions de... par rapport à mon boulot, mes responsabilités, mais de revenir à des choses très proches de l'école. Autant je peux te rejoindre dans ces réflexions-là, mais finalement, dans le contexte actuel, les choix institutionnels qui ont été faits, qu'est-ce que j'ai comme marge de manœuvre, moi, en tant que personnel du corps enseignant, en fait? Et cette marge de manœuvre qui me reste, c'est d'être finalement hyper ambitieux dans les compétences et la culture numérique que je lègue, que je laisse, que je stimule, que je favorise au fait chez mes élèves, étudiants, etc. Dans l'idée de... alors ça c'est une phrase de Patino, un journaliste qui a écrit un bouquin, un petit pamphlet assez simple sur la civilisation du poisson rouge, mais il dit la liberté s'exerce dans la maîtrise, et donc si je veux en tant qu'enseignant permettre aux bénéficiaires de mon enseignement d'être libre penseur, je dois tout faire pour leur permettre d'avoir des compétences hyper pointues dans cette négociation continue avec les outils qu'ils utilisent en fait.
J'ai pas saisi la fin.
Tu ramènes tout à l'heure à des enjeux institutionnels. Je te rejoins complètement. Effectivement, l'institution a une responsabilité énorme dans les choix qu'elle institutionnalise. Mais au-delà de ça, moi, en tant qu'enseignant, il me reste une liberté d'action, une liberté pédagogique. Finalement, comment je m'oriente avec cette liberté qu'on me laisse pour que ce champ qu'on appelle compétences numériques... Tout le monde semble d'accord qu'il y ait une compétence numérique, je ne suis pas complètement convaincu, mais compétence numérique soit la plus porteuse de de certaines valeurs. On a parlé de valeurs tout à l'heure. Anya, tu as amené la notion de valeur, l'idée de la nécessité de penser celle-ci. Et une des valeurs que personnellement j'ai envie de défendre, c'est une forme de liberté de penser, une liberté d'action. Et surtout ne pas mettre mes étudiantes et mes étudiants dans une situation qui va les contraindre dans les usages à jamais, etc. Et donc, de viser des compétences hyper élevées, en fait. D'avoir un enseignement qui se veut ambitieux pour mes bénéficiaires.
Quels seraient les moyens d'y parvenir ?
Je sais pas, hein, mais je me dis que pour me donner une partie de contrôle, ce serait ça, en fait.
En effet, et puis, on a une abondance de moyens. Alors, on parle toujours de budget, de choses, mais sachant que sur ce territoire, on croule sous les objets, sous les matériaux. Et on a de quoi faire avec. Et puis, un deuxième point, c'est la caractéristique du numérique. C'est d'être virtuel, programmable, reprogrammable. Donc, de permettre de multiples expériences pour l'individu, mais sans altérer l'objet ou le programme. Donc, de faire, refaire, défaire. On peut planter un ordinateur, mais on ne peut pas casser un programme.
Ouais.
Donc ça, c'est une ouverture, une possibilité qui est peu conscientisée par les gens du milieu.
C'est hyper intéressant ce que tu amènes, parce qu'il y a sous-jacent l'idée du rapport à l'erreur. Et dans le monde de l'éducation, dans l'enseignement-apprentissage, on a travaillé pendant longtemps sur un rapport décomplexé à l'erreur, et justement même l'erreur, elle est la bienvenue, parce qu'elle est, dire là il y a un champ de développement, il y a l'apprentissage qui est possible sur la base d'erreur. J'ai un sentiment flou, peut-être que vous ne partagez peut-être pas, mais que dans le monde de l'éducation numérique, on a un rapport encore très complexé à l'erreur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux de protection des données, l'institution scolaire n'a pas le droit de faire faux sur ce coup-là. On a vu le tollé qu'a fait lorsqu'il y a eu un premier spam sur les adresses de l'UFR, c'est remonté jusqu'au conseiller d'État qui a dû prendre une position publique parce que les élèves ont reçu un spam. À un moment donné, le rapport à l'erreur, entre guillemets, là, il va être hyper sain. À un moment donné, il y a eu un spam, qu'est-ce que c'est qu'un spam ? Puis on commence à expliquer aux élèves et puis à travailler dessus.
C'est
une opportunité d'apprendre. Et il me semble que dans les enjeux d'éducation numérique, on a un rapport hyper complexe à l'erreur, on n'a pas le droit de faire faux. Est-ce que c'est parce que c'est un sujet tendu ? Est-ce que c'est un sujet qui questionne la relation école-famille ? Est-ce que c'est parce que c'est du matériel qui coûte cher, donc il faut surtout pas faire faux ? Est-ce que, enfin, je sais pas, mais je trouve qu'on a un rapport hyper complexe à l'erreur. Je sais pas si vous partagez ces perceptions-là ou si vous avez des perceptions complètement différentes.
De mon point de vue, en études genre, on expliquerait que c'est parce que c'est un univers qui est finalement qui suit des logiques androcentrées, très très rationnelles, la science dure, et que justement l'erreur, rien que la créativité, comme tu parlais de déconstruction, reconstruction, s'autoriser à des choses peut-être moins linéaires, même rien que hacker, faire des tentatives d'hackage avec les élèves, ça pourrait justement être des choses qui casseraient ces logiques finalement commerciales, linéaires, très très arbitraires et fermées. Donc voilà, peut-être un élément de réponse. Mais je trouvais intéressant de développer une culture numérique, mais je me dis à quel point, en fait, effectivement, les institutions, on peut penser peut-être une décroissance qui serait nécessaire pour pouvoir nous permettre de reprendre le pouvoir sur ces technologies. Mais en même temps, nous-mêmes, essayer d'être aux pointes en termes de culture numérique pour pouvoir nous-mêmes reprendre le pouvoir. Donc voilà, il y a un jeu, je pense, constant entre ces deux éléments. Mais c'est clair qu'à l'heure actuelle, à l'école, il y a la nécessité de développer une culture numérique plus ambitieuse.
J'adore tes réponses. Enfin, tes réponses m'ouvrent sur plein d'aspects que je n'avais pas en tête. J'aimerais compléter avec d'autres hypothèses de pourquoi le droit à l'erreur est si restreint et on n'a pas beaucoup de pédagogie de l'erreur. Une dimension qui est importante selon moi, c'est l'origine judéo-chrétienne de nos civilisations, avec le christianisme qui met bien en avant le concept de faute et de payer sa faute. aussi l'aspect protestant qui pousse la dimension individuelle. Un individu a une responsabilité, des devoirs et une liberté. Et ça, c'est des éléments qui font que voilà, on a peur de l'erreur, c'est sortir du lot, c'est être pointé du doigt, c'est être fautif. Rajoutons à cela tout un déploiement bureaucratique légal. On a construit un cadre légal qui est censé encadrer nos actions, mais qui au final encadre plutôt notre imaginaire, nos façons de penser. Parce qu'on sort de ce cadre, y a des conséquences, il y a des sanctions. Ça, on peut poser la question, oui, ça vient d'une culture états-unienne, est-ce qu'on aurait pu faire quelque chose contre ? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est là. Et c'est ce qui fait qu'on est assez pieds, mains liés, même dans notre imaginaire. Ensuite, dans nos actions, oui, c'est des processus, ça demande du temps, ça demande du courage. En fait, ça demande de courage de faire autrement. Et c'est pas ça qui va aider à gérer nos besoins présents, tout en préservant la capacité des générations futures de répondre aux lois. Ouais, ça enchaîne, ça va. On parle d'enjeux de durabilité de gens autour du numérique, ça devient des regards critiques sur le fonctionnement profond d'une société. Du coup, on pourrait nous faire la critique que c'est des discours qui sont peut-être trop abstraits.
Désincarnés.
Et de plus en plus dans nos pratiques, on se rend compte que c'est nécessaire de traiter ces points. Et que s'il ne s'agit plus d'aller sur le dernier magasin en ligne, voir les dernières trouvailles technologiques et de faire une veille technologique et de savoir faire le bon choix de quel appareil utiliser à quel moment dans la phase de la vie. Ce qui est un résumé assez bon de la stratégie fribourgeoise en termes d'éducation numérique. Mais c'est une approche insuffisante, comme a relevé Anya, un technocentrisme insuffisant, ce qui n'est pas à la hauteur des problèmes actuels.
Moi, j'ai une question à t'adresser, Anya. Tu dis que, en l'état actuel, donc les plans d'études cadres, que ce soit ici, les plans d'études québécois ou ailleurs, parfois manquent un peu d'ambition, sont peu vertueux, etc. Et puis tu amènes la nécessité de construire un rapport critique avec la chose numérique. Je me dis que ce qui va driver les pratiques enseignantes, c'est certes les plans d'études, mais c'est aussi tout le champ de l'évaluation. Ça devient aujourd'hui tellement important que, sans contraint, qu'il y aura un processus d'évaluation des compétences numériques chez les élèves. Maintenant, la forme que ce processus va prendre, je ne sais pas encore. Je me réjouis de découvrir ça, de décision institutionnelle, mais comment on devrait évaluer les compétences numériques pour aller jusqu'à ce niveau critique et sortir de l'élève est capable de bouger la souris, l'élève est capable d'allumer un ordinateur, l'élève est capable de, etc. Mais pour essayer d'évaluer ce niveau critique, est-ce que tu as des idées, des perceptions, des réflexions à ce niveau-là? Parce que si on formalise quelque chose bien construit à ce niveau-là, forcément on va inviter à des pratiques qui vont enseigner ceci. Quoi.
Alors je pense qu'il y a deux niveaux dans cette question. Effectivement, en termes de contenu, il existe un panel d'activités pédagogiques qui permettent de travailler les enjeux politique du numérique, par exemple des activités qui mettent en débat les élèves sur des questions d'actualité. Quelques exemples sur l'intelligence artificielle, les enjeux, les limites. Prenez l'exemple d'installer justement une caméra dans la cour de récréation. Quelles sont les opportunités mais les limites de telles approches et de faire entrer en débat les élèves. Mais bien sûr, ça nécessite le développement de compétences. pas uniquement numérique, mais de compétences critiques qui sont nécessaires justement dans d'autres domaines, qui sont pas suffisamment développées, étudiées dans la forme scolaire actuelle, forme scolaire encore traditionnelle. L'évaluation, ça dépend de quelle manière on la perçoit. Avant, on avait une discussion avec Mathieu sur le développement des compétences, par exemple collaboratives, des compétences transversales dans le plan d'études qui n'ont pas de valeur à l'heure actuelle en termes de notation sommative. Et donc, du coup, comment, dans le cadre d'un cours, par exemple à la HEP ou à l'école, on pourrait faire en sorte d'impliquer intrinsèquement les étudiants et étudiantes, eh bien, ça pourrait passer par l'évaluation de compétences de collaboration dans un groupe tout au long de l'année, des compétences transversales. Et là, intégrer les technologies, je pense, ne paraît pas insurmontable. Donc voilà, ça serait peut-être de passer par l'évaluation de compétences plus transversales. Ben, sortir des logiques institutionnelles qui voudraient un nombre d'évaluations sommatives à la fin de chaque année, mais là on serait encore justement au niveau de l'institution, donc au niveau des pratiques très concrètement, ce serait peut-être de repenser un petit peu ces pratiques d'évaluation sommative et de les faire peut-être plus régulièrement et sur d'autres types de compétences.
Merci.
Il y a une recherche enfin il y a des recherches qui sont menées là-dedans, hein. Mm-hmm. Autour de ces compétences transversales, mais c'est une grande difficulté ça chamboule, même pour obtenir des données sur là-dessus, ça chamboule tellement le fonctionnement presque devenu naturel, inné de l'école avec ses évaluations. Et du coup, les groupes de chercheurs, chercheuses là-dessus, on a difficulté d'accès au terrain et d'obtenir des données qui soient suffisamment solides pour en sortir des connaissances à appliquer ensuite à plus grande échelle.
Oui, il y a quelque chose de l'ordre, finalement, de la, l'évaluation de ce genre de compétences-là serait plutôt des espèces de rapports narratifs que des éléments chiffrés, quantifiables, etc. Et qui rend évidemment... comment dire, une des fonctions d'évaluation qui est de sélectionner, eh ben, ça rend compliqué de sélectionner sur la base de rapports narratifs, alors que c'est très simple de sélectionner sur la base d'un score. Mm-hmm. Donc il y a quelque chose qui est très ambivalent là-dedans. Peut-être que dans les réflexions à mener sur comment l'institution va évaluer les compétences numériques, est-ce qu'il faut formellement découpler l'évaluation de feedback de la promotion de l'élève à l'année suivante. Peut-être quelque chose comme ça.
Un rapport plus narratif, il faut savoir. Ça me fait penser à une professeure américaine qui donne des cours en droit. Mais elle est philosophe, Martha Nussbaum. Et elle parle de la narration dans les plaidoyers, dans les cours suprêmes, etc. Et elle introduit justement cette idée de manque de pont entre les disciplines, en fait, la littérature et le droit, la musique et le droit, et comment l'une peut nourrir l'autre. Et justement, elle enseigne justement la philosophie dans une école de droit. Et elle parle de trouver le ton juste, en fait, la justesse des mots, la justesse de la description de l'expérience qui est nécessaire dans un plaidoyer. Et elle est pour un décloisonnement justement des disciplines, comment l'une peut nourrir l'autre et comment justement en classe par exemple l'expérience de l'élève peut permettre au savoir finalement d'avancer, d'être perçu différemment que ce qu'il est amené dans une démarche plus bottom-up que top-down. Mais c'est intéressant. Mais je pense que justement avec le numérique on a justement cette barrière puisqu'on a tout ce qui est... ce côté qui est imperceptible finalement du numérique, on comprend peu, pas, et donc on est vraiment justement dans ce processus top-down, on a des savoirs qui sont délivrés plutôt que nous-mêmes producteurs, productrices en fait.
Bon. C'est vrai que ouais, je pense, en écoutant tout ça, on se rend compte aussi qu'on on a une branche qui est arrivée et puis qui était déjà ramifiée absolument dans toutes les strates, absolument partout. Tout le monde a un smartphone, un accès à Internet, etc. Et puis c'est présent absolument partout et ça apparaît du jour au lendemain un peu. Et on n'a pas vraiment d'experts en éducation numérique vu que ça couvre tous les domaines. Donc comment faire pour pour avoir une personne qui soit pertinente plus qu'une autre là-dedans.
C'est rigolo, ça me fait penser, j'ai rencontré une nouvelle fonction la semaine passée lors du colloque optique en Belgique, à Namur. Ben, leur réponse à ça, c'est qu'il y a une éducation technique, technologique et numérique. Et les individus qui s'occupent de ça sont des technopédagogues. Voici une réponse à ta question. Est-ce qu'elle est valide? Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Je ne sais pas.
Parce que comme on le voit justement, l'aspect éthique, écologique, etc., a un immense poids là-dedans. Donc, comment à la fois être formé à tout ça, enfin...
C'est retourner, c'est une problématique qu'on retrouve aussi dans le milieu de l'entreprise. Donc les grosses boîtes, les multinationales, les grosses boîtes avec les différents départements, et il y a un souci de passage de l'information, de la valeur entre les différents départements. C'est ce qu'on appelle le fonctionnement en silo. Et il est difficile de passer d'un silo à un autre. Les entreprises, le monde du business, a problématisé ça il y a déjà 20 ans. On découvre cette problématique dans le monde de l'école. Comme on a découvert le numérique avec 20 ans de retard aussi. Hein. Ouais. Mais en effet, du coup, ça demande une approche, une vision globale, une approche holistique, c'est-à-dire sur l'ensemble. Et ça demande de sortir de la spécialisation des disciplines comme silo. Il y a la didactique des mathématiques, de la géographie, du français langue étrangère. Et on a des problématiques comme le genre et la durabilité. Bah ouais, ça va faire exploser toutes ces catégories. Et en fait, non, ça ne peut pas faire exploser toutes ces catégories, parce que ces catégories soutiennent des individus nombreux qui se sont légitimés par ces catégories. Donc, face à ce besoin de changement, il y a une opposition tout à fait légitime du point de vue de ces individus qui ont eu un plan de carrière, qu'ils le réalisent, et ils veulent pas que ce soit détruit par des bêtes questions comme les femmes et l'avenir de la Terre.
ça fait écho avec un échange que j'avais eu avec des personnes qui étaient dans la rédaction du plan d'études d'éducation numérique. Je leur disais, mais c'est regrettable que l'on ait décidé dans notre pays, enfin en Romandie, de rajouter une couche compétences numériques plutôt que de questionner le tout. Alors, j'imagine bien pourquoi ce choix institutionnel a été fait, parce que sinon ils seront encore en train de débattre, parce que ça va changer le français, les maths, les sciences humaines, enfin peu importe, et puis on ne serait pas encore arrivé au bout. Donc, dans une réflexion très pragmatique, ils ont dit non, on s'occupe que de la question numérique. Mais effectivement, on a rajouté un silo. On a rajouté un silo et il y a une volonté, certes, de faire des liens, de faire des ponts. Ils rajoutent une ligne, on dit « Ah, mais cette compétence, finalement, elle est en lien avec celle-ci, puis cette compétence, elle est en lien avec celle-ci. » Mais formellement, ce que l'on voit, c'est qu'on a rajouté une ligne, en fait. On a rajouté une ligne et on ne s'est jamais posé la question d'une approche plus interdisciplinaire, d'une approche peut-être thématique, où on va chercher un peu de français, un peu de sciences humaines, un peu de etc. pour penser à un phénomène de société, en fait.
Ouais. Et c'est intéressant parce que confronté au terrain, je trouve que le cycle 1 réceptionne plus facilement justement l'éducation numérique, puisque justement il y a moins de cloisonnement entre les disciplines, il y a plus de liberté, et donc justement une envie, peut-être une possibilité justement de créer, apportée justement par une grille horaire plus souple. Un aménagement de la classe plus flexible, pas forcément plus de moyens, mais...
Ouais, finalement, c'est encore une fois cette négociation des contraintes et des libertés, et lorsque l'on laisse au corps enseignant, eh ben, ce corps enseignant sait se saisir de cette liberté-là et faire des choses pertinentes. En fait. Et des soucis institutionnels d'équité, de contrôle, des pratiques, etc., rajoutent des contraintes, enlèvent de la liberté et génèrent une certaine forme de frustration. Donc il y a une espèce d'équilibre à trouver, et je trouve que le numérique vient ici déplacer l'équilibre, alors c'est mes perceptions de nouveau, peut-être je me trompe, mais vers plus de contrôle et moins de liberté.
Plus de contrôle et moins de liberté.
Laisser au corps enseigné. À mon sens, enfin mes perceptions, c'est que le déploiement des infrastructures et des interfaces numériques va plus contraindre le corps enseignant que lui donner des opportunités et des libertés.
D'où la nécessité d'être en mesure, d'avoir les compétences pour trouver ces brèches, ces espaces de liberté qu'on arrive quand même à trouver dans l'appréhension des technologies avec les élèves. Mais ça nécessite une culture numérique plus ambitieuse, comme on disait.
Dans ces espaces de liberté, on peut aller saisir les thématiques genre, les thématiques durabilité, et puis toutes autres thématiques qui sont évidemment importantes à se saisir, essentielles et rapidement, sans quoi, si on n'a pas cette zone de liberté, on ne va pas pouvoir se les saisir, parce que les contraintes, qu'elles soient réglementaires, informatiques, culturelles, etc., ne vont pas nous permettre de nous saisir de ces trucs-là. Parce que dans le plan d'études, ce n'est pas écrit, comment dire, de manière très évasive, sauf alors c'est au cycle 3 qu'on trouve quelque chose, mais peut-être je me trompe, mais tenir compte des problématiques genre dans le déploiement du numérique. C'est une phrase parmi d'autres, et puis après de nouveau c'est des perceptions, il y aurait quelque chose de très important à faire, et de donner une certaine emphase à tout ça. En fait.
Après, si je reprends la toile de l'égalité d'Isabelle Collet, développée depuis Claudie Solard, les contenus, la réflexion critique justement sur le numérique par exemple et ses implications politiques, eh bien ça occupe une toute petite place dans cette toile de l'égalité. Et en fait, il y a une très grande place qui est donnée aux pratiques enseignantes, en fait, à comment je traite les élèves, comment je leur donne la parole, sur quoi je m'appuie justement pour les évaluer, quelle place je laisse à l'expérience, à la sensibilité, à la créativité. Et donc, il y a tout un pan, en fait, sur les pratiques pédagogiques et la formation enseignante, en fait. Donc, c'est vrai que les contenus occupent finalement une petite partie par rapport à ça. Alors, nous allons poursuivre les festivités avec quelques activités avec nos participants. Si vous avez envie de vous joindre à nous la prochaine fois, restez connectés sur le blog du Create. Et puis, nous allons couper l'enregistrement. Merci de nous avoir écoutés.